brava.
I am your father.
On ne laisse pas bébé dans un coin.
88 miles à l'heure.
I'll be back.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes de retour sur Ciné 7, vous êtes toujours sur Radio RKS, on se retrouve comme tous les dimanches soirs à 19h, et ce soir c'est un peu particulier, on espère que vous avez allumé la cheminée, pris votre plaid, votre petit chocolat chaud pour nous écouter, parce que ce soir c'est une émission un peu particulière, c'est une émission détente pour passer cette fin d'année ensemble, pour tirer un trait définitif sur cette année qui n'a servi pas à grand chose, même si ça nous a servi de plus ou moins, mais une année très difficile et passer de bonnes fêtes ensemble. Bonsoir vous deux.
Bonsoir. Hello. À tous.
Donc bon, si c'était pas assez explicite, ce soir on va parler de
Noël. Donc, un peu en avance, on n'est que le 20, oui. Mais on vous met dans l'ambiance.
Oui, on se met dans l'ambiance. Et dans 5 jours, on sait qu'on est tous impatients de déballer nos cadeaux.
Ah, moi j'aurais dit dans 4, mais bon, c'est une question d'habitude.
Alors ouais, là il y a un sondage.
Non, c'est le 25.
24 au soir ou 25 au matin.
C'est le 25.
Là,
ouais.
Là je suis d'accord
je
avec
Je n'ai pas choisi. Alors, appelez ma famille,
je
vous
vais,
verrez avec
je vais vous faire l'histoire de Noël, vous verrez que c'est le 25. Et qu'est-ce que vous avez commandé pour Noël, tiens?
Ah bah on peut pas te dire, puisqu'on a pris des cadeaux pour toi.
Le hoverboard de Marty McFly.
Ouais. Tu crois que le Père Noël, il est capable de préparer ça?
J'espère. Ouais. J'espère de tout mon cœur.
Ça fait combien d'années que tu le demandes?
Ça fait 13 ans.
mais c'est parce que le temps qu'il développe la technologie, tout, le Père Noël, il est fort, mais quand même pas à ce point-là.
Bon, on verra bien.
Parle mieux du Père Noël.
Qu'est-ce que t'as commandé, Jade?
Moi?
Ouais.
Écoute, pour l'instant, j'ai tout ce dont j'ai besoin.
Psartec, hein, j'ai tout.
Hein. Besoin de rien.
Envie de toi? Non, bref.
Tout à fait.
C'est pas grave. Alors, une petite histoire de Noël, maintenant que vous êtes bien tous installés, bien tous au chaud, on attend le Père Noël, et donc une micro-histoire de Noël. Alors à la base, c'était quoi? C'était une fête païenne, avant de devenir une fête religieuse. Mais dans la tradition globale, c'est une fête qui célèbre quoi? Qui célèbre la naissance de l'enfant Jésus, je cherche mes mots décidément. Entre la semaine dernière et cette semaine, ça va être compliqué. Mais donc, à partir du 2e siècle qu'on a commencé à chercher la date de naissance de Jésus, et c'est au 4e, 5e siècle qu'on aurait fixé la date au 25 décembre. Donc, à la base, ce n'était pas une fête religieuse, c'était juste la date de naissance. Puis, au fur et à mesure, et en absorbant d'autres coutumes païennes, c'est devenu une fête religieuse, la célébration de la naissance de Jésus, et puis petit à petit, c'est devenu une fête conviviale, de partage dans la famille et tout ça, avec l'arrivée du Père Noël, qui lui arrive d'anciennes traditions aussi religieuses, c'est Saint Christophe, c'est ça?
Oula, moi je connais que Saint Nicolas.
Saint Nicolas, pardon. Saint Christophe, je sais pas d'où je sors, mais Saint Nicolas, donc qui a été repris et qui a été un peu détourné. Après, il y a d'autres traditions. Hein. On connaît la Befana en Italie ou autre chose, qui a découlé sur le Père Noël. Et du coup, ce qui a fait que la fête est devenue moins religieuse, mais plus universelle. Voilà.
Et universelle même dans le cinéma, puisque c'est un sujet qui est énormément repris. Et qui nous a amené à faire notre petite sélection du jour.
Exactement. Juste une dernière petite anecdote. Je pense que celle-là, elle est connue. Marvin, tu rigolais de ça avant l'émission.
Oui.
Tu disais que la fête de Noël a été inventée par une fameuse marque de boissons américaines rouge. Et en fait, ce n'est pas vraiment la fête de Noël. Je ne sais pas si tu connais, Marvin.
Non, mais c'est juste qu'en fait, la légende urbaine, c'est qu'avant, le Père Noël était avec un costume vert.
Exactement. En fait,
et qu'il est passé rouge.
C'est ça. En fait, au départ, le Père Noël était avec un costume vert pour pouvoir se cacher dans le sapin, selon la légende. Comme ça, quand les enfants se réveillaient, ils se cachaient derrière le sapin. Et puis, du coup, cette marque-là a fait une campagne de pub avec le Père Noël rouge. Et cette marque est tellement un mastodonte mondialement que c'est devenu son costume un peu attitré et que maintenant, la fête de Noël est placée sous la couleur rouge.
Je voudrais juste dire, par rapport au Père Noël, je me suis toujours demandé, en fait, c'était quel personnage qui était le plus représenté dans le cinéma. Et je pense que c'est le Père Noël.
Je crois que c'est ça.
Le Père Noël ou Adolf Hitler, je pense. Un des deux.
Deux salles de zombies.
Non, mais en vrai, je pense que c'est les deux personnages qui sont
ils
le
font
plus
peur aux enfants tous les deux, mais c'est pas pour la même raison.
Le Père Noël, dans tous les films de Noël, il est là. Donc,
C'est vrai.
Je pense qu'il est le personnage le plus représenté à l'écran.
Et puis même, il est même pas que dans les films de Noël, mais avec tous les téléfilms de Noël qu'on a, je pense qu'il est...
Et ça, on valide.
La passion pour les téléfilms de Noël par Jade, c'est incroyable. Quoi.
Je bah, l'envoie un culte.
Elle est bien la sœur.
Sur M6, quoi.
Ah ouais. Tous les midis, tous les après-midi.
Oh, c'est horrible. C'est toujours la même histoire, en plus.
Toujours.
Mais bon, là, on là, on va faire mieux aujourd'hui. On va prendre trois beaux films d'animation de Noël.
Quand même mieux, j'imagine.
Voilà, ça va être mieux.
Et bah, on peut y aller tout de suite. Maintenant, vous avez d'autres choses à raconter ou pas?
Non, moi, je peux vous parler du premier film dont on va vous faire écouter une musique très brièvement. On va vous faire écouter la bande originale de Klaus, qui est sortie, je crois, en 2019.
Tout à fait,
exactement.
Sur Netflix, et qui était, Marvin me l'a appris, accessible à tous. Il n'y avait pas besoin d'abonnement pour regarder Klaus, puisque c'est une belle histoire de Noël et de partage.
C'est un beau cadeau de Netflix.
Oui.
Et on y va ?
La bande originale, encore une fois, c'est Zara Larsson. Donc, ils n'ont pas pris n'importe qui pour la faire. How many nights did I lie awake in the darkest place? How many days did you shed the pain of your darker days? All I know is if happy lives mile away, a couple steps is all it takes. If kindness lives everyone.
C'était Zara Larsson pour Klaus, et là, je reprends la parole et je suis d'une humeur. Voilà, c'est l'humeur de Noël, moi je suis électrique. Alors, de quoi ça parle Klaus? Ça a été réalisé par Sergio Pablos, et il est sorti en 2019, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça raconte l'histoire de Jesper, qui est le fils du directeur de l'Académie Postale Royale. C'est pas n'importe qui, mais il se comporte n'importe comment. Et cette personne-là...
C'est un fils à papa.
Un petit
un
peu.
Gosse de riche, tout à l'heure.
Ce Jesper-là va être envoyé suite à une décision de son père... dans un village totalement loufoque dans le cercle arctique pour une mission impossible. Donc il a un an pour envoyer 6000 lettres, sachant que les habitants de Smirensburg, la ville où il est envoyé, enfin le petit village...
La petite pirouette là, Smirensburg...
Smirensburg. Et les habitants de Smirensburg n'utilisent pas le service postal. Voilà, ils ont des boîtes aux lettres, elles ne servent à rien, peut-être à se taper dessus. Et ce Jesper va devoir faire envoyer aux habitants 6000 lettres, affranchir 6000 lettres, mais la tâche va être rendue très compliquée par les habitants qui sont belliqueux et qui se tapent dessus toute la journée. Voilà, j'en dis pas plus.
Parce qu'il y a deux clans en fait dans ce film-là, qui remontent, si j'ai compris, à la préhistoire. qu'en fait,
depuis
le début de la création de leur famille, en fait, deux clans et deux ambiances, et ils se tapent dessus depuis
la nuit des temps.
Depuis la nuit des temps, voilà, c'était l'expression.
On a les Krom et les Elingbo.
Voilà,
exactement.
Qui se partagent du coup la ville en termes de.
Et donc, comme tu l'as dit déjà tout à l'heure, mais j'ai envie de le redire, c'est une production originale Netflix. Et c'est franchement bien fait. Et clairement, c'est le film de fin d'année qui a le plus marqué l'année dernière, il me semble.
C'est surtout le premier film d'animation réalisé par Netflix.
C'est vrai.
C'est le premier.
C'est vrai.
Et ils n'ont pas fait n'importe quoi, je trouve.
J'y avais pas pensé.
Vraiment, ils ont bien tapé dedans. Quoi.
Et il faudrait regarder les classements, mais je crois qu'il est très très bien noté aussi. Au niveau des classements.
Allociné, il est noté 4,5 sur 5.
Donc, ce qui est quand même pas dégueulasse.
Il est pas dégueu.
Et surtout qu'en général, les critiques ont tendance à pas faire de cadeaux aux productions Netflix.
Oui, et puis en sachant, par exemple, le dernier Mulan est à 2,5 hein, quand même. Donc, même si c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même, ça reste quand même un Disney.
Non,
Disney,
il est beau, Klaus.
Et Disney sont quand même très très bien notés. Donc, Klaus est quand même un bon film.
Au niveau de l'animation, c'est un peu particulier. On est sur de l'animation 2D. Donc pas du tout ce qu'on va voir sur les autres films, qui sont, il me semble, alors stop motion et animation motion capture.
Ouais, motion capture pour Polaris.
Donc là, on est sur du 2D, mais l'animation est faite de telle façon qu'elle ressemble à de la 3D. Donc on peut se laisser avoir. Et c'est d'ailleurs très joliment fait, avec de belles couleurs. Moi, j'ai adoré ce film, je trouve qu'il est vraiment beau.
Moi, les dessins m'ont fait penser à des dessins qu'on retrouve un peu dans les contes. Des dessins dessins assez simples, des espèces de 2D, 3D, enfin une espèce de 2,5D quoi. Et
2,5D.
Mais quelque chose de très joli et de simple, mais l'histoire n'est pas si désuète que ça en fait.
Il y a aussi des belles transitions, c'est quand par exemple on va nous montrer le plan du village de Smirensburg.
Je suis votre référent accent aujourd'hui.
Et bah au début ça va montrer un plan, et d'un coup il va y avoir un zoom sur le plan, et d'un coup ça va se transformer en montagne. Enfin voilà, le plan classique en papier va se retrouver en relief avec des montagnes. Donc en fait ça va faire une belle transition pour montrer qu'il a voyagé quoi, par exemple. Clairement. Le personnage.
Et là j'ai juste envie de dire une chose. Pour l'instant on est à Smirensburg, mais on en est où de Noël? Clairement.
C'est-à-dire
dans tout ce qu'on vient de dire, on en est où de Noël?
Alors le rapport à Noël?
Ouais.
Le rapport à Noël, c'est que Jesper, en arrivant à Smirensburg, fait la connaissance d'un vieux monsieur isolé dans les bois qui s'appelle Klaus. Donc déjà, si vous êtes un peu familier avec l'univers de Noël, ça devrait vous dire quelque chose. Et ce monsieur-là a énormément de jouets dans sa maison. Il y vit seul. Il était fabricant de jouets avant. Et en fait, l'histoire, c'est qu'ils vont commencer à utiliser le service postal pour que les enfants envoient des lettres pour demander des jouets et que Klaus les livre avec un beau traîneau.
Alors, je corrige juste, il n'est pas fabricant de jouets, il est menuisier, et son passe-temps, c'était de fabriquer des jouets pour une histoire qu'on ne va pas dévoiler maintenant. Mais voilà, il a fabriqué des jouets pour quelque chose, et il en avait beaucoup trop, et il ne savait pas quoi en faire, en clair.
En tout cas, on sait que l'animation, c'est extrêmement compliqué, c'est un procédé complexe qui prend du temps. Ce film-là, il a été en développement pendant près de 10 ans avant de voir le jour, notamment parce que ça met du temps à animer, mais aussi parce qu'il y a une histoire de droit rachetée par Netflix. Et le premier mois de sa diffusion, il a touché près de 30 millions de spectateurs, ce qui est juste énorme.
Dû, je pense, aussi à la gratuité de ce film-là.
Et c'est quand même incroyable le fait qu'il y ait eu quand même 10 ans de production, ce qui fait que du coup, forcément, c'est... Ouais, excusez-nous. Il y a un petit problème, mais bref, c'est pas grave. Donc c'est très très long, donc c'est très très cher aussi. Et de le sortir tout de suite pour la période des fêtes, gratuit, on se demande où ils sont allés chercher les recettes.
Je pense que vu le nombre d'utilisateurs Netflix, ils y ont été assez rentables dans tous les cas.
Ouais, c'est possible.
Eh bien, je lis qu'il a coûté, alors accrochez-vous, que 40 millions. Parce qu'apparemment, 40 millions, j'ai aucun estimatif, mais apparemment, 40 millions, c'est pas énorme pour un film d'animation.
Aucune idée, franchement, au niveau budget, je sais pas du tout.
Moi, les chiffres.
Moi, ce que j'aime bien, c'est aussi. Il y a une relecture du conte de Noël. Ça va en fait nous montrer quelque chose d'un aspect assez différent. On va réécrire un peu l'histoire de Noël. Ça va être différent de ce qu'on connaît. Déjà, ça va pas se passer forcément au pôle Nord. Enfin, ils disent pas le pôle Nord, par exemple. Ils parlent de la ville que je vais pas citer parce que j'ai absolument...
Smirensburg. J'aurais dû en faire un jingle.
Ils parlent quand même du centre... Enfin, du cercle arctique. Voilà.
Mais ils parlent pas de forcément, par exemple, des lutins, du Père Noël, de tout ça. Et en fait, il y a par exemple des scènes... Bah, on connaît tous du style... les rennes qui volent dans le ciel avec le traîneau. Et bah, il y a une scène où... On va dire le traîneau lâche et les rennes en fait il vole pendant quelques instants, mais pas assez en fait pour voler. C'est juste qu'un enfant a vu par sa fenêtre des rennes voler, qui s'est dit à tous ses copains, bah, le Père Noël il vole avec ses rennes. Alors qu'en fait, bah, après, juste derrière, on voit une scène, une transition où en fait, il est totalement, le traîneau il est totalement cassé dans la neige. Quoi.
Et donc ça, c'est sympa parce que ce film nous montre un peu l'envers du décor de la création de la légende de Noël.
Bon, selon... Qui n'est pas sans nous rappeler le film dont on parlera juste après, qui est L'étrange Noël de Monsieur Diac, exact. Où de la même façon, il se passe des choses qui raccrochent à l'imaginaire de Noël, mais qui sont tout à fait accidentelles.
Tout à fait.
Et en vrai, il y a une belle morale dans ce film, mine de rien. Enfin, c'est une morale un peu cucu, mais en mode, il faut pas taper sur son prochain, il faut genre l'apprécier et tout.
Ouais, et puis être ouvert à la différence, voilà, ouvert avec la petite Margot, qui ne parle pas la langue commune.
Et puis, il y a aussi le fait qu'il ne faut pas être que carriériste, il faut penser à soi et aux autres aussi.
Voilà. Et non, mais c'est beau en plus. En plus, c'est bien dans le thème de Noël, quoi. En mode, on se retrouve, on fait des repas ensemble et tout. Bah, dans ce film-là, il y a ça. On joue ensemble, les enfants ils jouent ensemble. Bah, ça fait vachement l'esprit de Noël. Donc, je pense qu'il est vachement bien placé dans cette période-là, quoi.
Et puis, ce qui est très bien aussi, c'est comme on l'a encore dit, c'est que c'est une production Netflix et donc il est accessible à quasiment tout le monde, puisque maintenant, quasiment tout le monde a Netflix. Hein. Enfin,
ouais. Ou même il est facilement.
Il est facile.
Oui, je pense qu'ils vont peut-être un jour peut-être le diffuser à la télé, même si c'est une production Netflix. Ça serait cool qu'ils le diffusent sur une chaîne. Une chaîne de l'antenne, quoi. Ça serait cool.
Ce que j'aime bien dans les films de la sélection d'aujourd'hui, c'est que c'est des films qui traitent du sujet de Noël, mais c'est pas non plus trop édulcoré, on va dire. C'est des films qui montrent plusieurs nuances. Là, par exemple, j'ai une petite sœur. Je sais pas si elle a vu ce film, mais je pense que ce serait intéressant qu'elle le regarde si elle ne l'a pas vu, puisqu'on traite de différences, de stéréotypes, de toute la stigmatisation qu'on peut avoir avec les étrangers, qui est clairement, enfin, sous-entendu xénophobe. On parle de guerre de village, de gens qui se tapent dessus parce qu'ils sont pas pareils. Et je pense que c'est très intéressant de rapporter toute cette idéologie-là, entre guillemets, à un film qui est quand même destiné aux enfants à la base.
Oui, bah, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les dessins animés quand même. On a souvent ce type de morale.
Oui, mais Noël, pas toujours. Noël, c'est souvent un peu gentil, un peu sage. Ouais.
Ce qui est intéressant aussi, c'est le personnage de Jasper, qu'au début, on ne l'apprécie pas parce que c'est un fils à papa, c'est un gosse de riche. Et qu'au fur et à mesure de ce film-là, bah, on va le découvrir sous notre facette grâce aux habitants de Smirenberg. Et aussi, notamment, grâce à la compagnie de Klaus. Et en fait, on va se mettre à l'apprécier, avoir envie qu'il reste en fait, avec les autres habitants. Quoi. Clairement. Que j'aime bien, quoi. Pourtant, le film, il dure, je crois, 1h30 et quelques.
Ouais, 1h40, il est rapide.
Il est rapide et pourtant, on arrive quand même à s'attacher au personnage assez rapidement. C'est bien, quoi.
C'est pas forcément le film à choisir pour faire durer le temps en attendant le Père Noël le 24 au soir, même si on attend le Père Noël.
Non, préférez la ligne verte dont on parlait la semaine dernière.
Si vous êtes parent et que votre enfant n'a pas vu ce film, bah franchement.
Allez-y,
franchement, quoi. Clairement, même vous pouvez le voir, franchement, c'est un super
ouais,
film.
C'est vraiment très très beau film.
On a échangé un peu des avis avant de lancer la radio. Et Kylian, tu nous as dit que tu n'avais pas forcément apprécié ce film-là. Est-ce que tu sais pourquoi? Et aussi, qu'est-ce que tu préférerais? Quel est ton film d'animation de Noël?
C'est compliqué, parce qu'en fait, c'est quand même un beau film. C'est un film qui se regarde bien, mais on m'en a beaucoup parlé, parce que je ne l'ai pas vu l'année dernière, je l'ai vu cette année. L'année dernière, je ne sais pas, pour des raisons X ou Y, je n'ai pas pris le temps de le voir, il ne m'attirait pas spécialement. Et en fait, on m'en a énormément parlé, j'en ai énormément entendu parler comme étant un des meilleurs films d'animation pour Noël. Et je n'ai pas été scotché comme on l'a vendu. C'est ça le problème. Quand on vend quelque chose d'extraordinaire, on s'attend à quelque chose d'encore plus extraordinaire que ce qu'on nous a vendu. Et effectivement, ça reste un beau film. J'ai passé un très bon moment devant. Mais je m'attendais à énormément plus. Donc effectivement, ça reste un beau film. Allez-y. Moi, c'est pas que je n'ai pas aimé. C'est juste que j'ai été un peu déçu par rapport à ce que je m'attendais.
Tu avais trop d'attentes pour ce que c'était.
Peut-être que le souci, c'est pas le film, la qualité du film, mais c'est peut-être qu'on te l'a survendu.
Exactement. Je pense que c'est exactement ça. Parce que j'ai quand même apprécié, j'ai passé un bon moment. Mais effectivement, c'est quand je suis ressorti du film, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le film du siècle.
Et on m'avait... Oh non, loin de là, mais il veut pas, je pense, être le film du siècle.
Non, mais bien sûr, mais sauf que moi, on me l'avait vendu comme le film de Noël du siècle. Quoi.
Et alors, quel film tu lui préfères?
Eh ben, je lui préfère le film dont on va écouter la bande originale tout de suite.
Mais quelle belle transition.
Et puis, je vais me charger de la présentation, mais je vous laisse écouter, on en parle.
Vous allez reconnaître
après.
Immédiatement.
Voulez-vous voir un monde étrange où l'on aime les démons mais pas les anges? Suivez-nous, venez visiter notre magnifique cité. Voici Halloween, voici Halloween, et c'est trop joli.
Je me cache sous votre lit le soir, mettant mes yeux brillent dans le noir.
Moi, je me cache sous votre escalier, doigts de serpent et cheveux d'araignée.
C'est ça, Halloween, c'est ça, Halloween.
Citrouille chante et les chauves sourient.
On plaisante, on fait des bêtises. On ne sait pas quelle sera la prochaine surprise.
Au coin de la rue, il y a des inconnus qui surgissent des poubelles.
C'est ça, Halloween, rouge et noir.
Gélatine.
Quelle horreur!
C'est un enfer! Par le feu, par la glace, il faut jouer à pile ou face et s'envoler à tambour ouvert.
C'est la ville du crime, c'est la ville du crime.
Je perds la tête, quelquefois je l'arrache
avant de disparaître dans un flash.
Je suis le mort qui prend autant. Je suis le vent qui vous glace le sang.
Moi je me glisse comme une ombre noire et je transforme vos rêves en cauchemars.
C'est ça Halloween, c'est ça Halloween. Halloween, 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 Halloween.
Trop sages, on préfère ceux qui ont la rage.
On fait peur,
mais on se domine.
Dans la ville d'Halloween,
on plaisante, on fait des bêtises. Tout le monde attend la prochaine surprise.
C'est Jack le squelette, son tambour des trompettes. Sur le chien à votre dos, vous le ferez pas.
C'est trop chiant et les gens
sourient.
Bon, je vous vois venir tous les deux. Qu'est-ce que fait Halloween dans l'épisode de Noël ? Mais la réponse est, ça y est, parce que c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc dans le titre, il y a Noël.
C'est pas l'étrange Halloween.
Non,
exactement. C'est pas un Tim Burton.
Alors, il attaque
alors,
direct.
Alors, d'entrée de jeu comme ça, à brûle pour point quoi. Non, bon, on va faire un petit résumé du film quand même avant d'attaquer dans les débats qui sont dangereux. Ou pas ? Oui, ça
oui,
vous va.
Oui, oui,
ça
on va faire ça.
Bon, quelle est l'histoire de ce film ? C'est assez compliqué, mais pour résumer, très simplement, c'est le squelette Jack Skellington qui est un peu la figure de proue de Halloween et de la ville de Halloween, parce que dès l'entrée de jeu, donc il n'y a pas la toute petite introduction vocale qui se passe avant la musique, parce que cette musique, c'est la musique qui présente un peu le film. Et juste avant cette introduction, en fait, on parle d'une espèce de forêt imaginaire dans laquelle on a des passages vers le monde des fêtes.
Oui, en fait, il y a une espèce de clairière où il y a des arbres en cercle. Et en fait, chaque arbre possède une porte vers une des fêtes traditionnelles, Thanksgiving, Noël, ouais. Saint-Valentin.
Exactement. Et donc là, on est dans la ville d'Halloween. Et en fait, donc, Jack Skellington est la figure de proue de la ville d'Halloween. Mais il est barbé un peu.
Il est lasse.
Il est las d'Halloween, il a envie d'émotions, de sensations fortes, et il va se balader, et par un heureux hasard, il tombe sur cette clairière-là, et va visiter la ville de Noël. Et donc il va revenir avec son expérience, avec ce qu'on lui a dit, avec ce qu'il a vu de sa petite visite de la ville de Noël, et il va vouloir, vu que Halloween vient de passer, il a un peu plus d'un mois, un mois et demi à peu près, pour organiser la fête de Noël, et il va vouloir comprendre dans un premier temps Noël, puis ensuite organiser Noël. Et donc voilà un peu l'histoire du film. Donc c'est un film qui est assez compliqué à placer, parce que est-ce qu'on le place... Enfin, est-ce qu'on
il
le regarde...
Un peu de deux.
Est-ce qu'on le regarde à Halloween ? Est-ce qu'on le regarde à Noël ? C'est un film, logiquement... Enfin, moi, personnellement, je le regarde au moins une fois par an, entre mi-octobre et fin décembre.
Alors, je vais laisser Marvin parler de tout le problème, entre guillemets, toute l'histoire avec Tim Burton. Mais il s'avère que les dessins, l'univers, tout ça rappelle l'univers de Tim Burton. Mmh. Et que Tim Burton, on ne l'a pas mis dans la sélection Halloween par hasard. Mmh. Puisque c'est quand même un univers qui évoque tout ça, ce qui fait un peu peur, tout ce qui est horrifique. Moi, j'aurais tendance, personnellement à plutôt le regarder à la période d'Halloween par rapport au, au graphisme, en fait, à l'animation qui est sans équivoque à tendance horrifique, c'est quand même un squelette.
Ouais.
Après, c'est vrai que pour les thèmes abordés, il peut très bien passer dans l'un comme dans l'autre.
Alors après, pour être totalement transparent, pourquoi il ne fait pas partie de la sélection Halloween ? Parce qu'on a voulu faire des films un peu plus horrifiques. Pourquoi il ne fait pas partie de la section Tim Burton ? Parce que ce n'est pas un Tim Burton. Enfin, pas vraiment.
Il l'a scénarisé, il l'a dessiné, mais il ne l'a pas produit.
En fait, au tout départ, et comme, exactement comme Frankenweenie, Frankenweenie, au départ, avant d'être un film, était un court-métrage. Et L'étrange Noël de Monsieur Jack, il l'a commencé par un poème, puis ensuite un court-métrage, puis ensuite un long-métrage qu'il aurait dû réaliser, mais qu'il a dû laisser la main pour des questions de temps. Et en fait, ce qui est assez intéressant, parce qu'on parlait de la, du duel entre Halloween et Noël, en fait, ce qui l'a inspiré, la création de ce film, c'est quand il est passé devant une vitrine, et devant cette vitrine d'un grand magasin, ils étaient en train de désinstaller la vitrine d'Halloween pour installer la vitrine de Noël. Donc dans cette vitrine, il y avait cette guerre entre les deux grandes fêtes des États-Unis. Et c'est ce qui lui a inspiré, en partie, c'est l'idée de ce film.
Et important à noter quand même, c'est un film, qu'on le veuille ou non, produit par Walt Disney Pictures. Donc, surtout par Touchstone Pictures, qui est la branche un peu, on va dire, un peu adulte de Walt Disney, qui a produit, par exemple, Armageddon, Le Cercle des Poètes Disparus ou Qui veut la peau de Roger Rabbit, par exemple.
Et c'est d'ailleurs pour ça que ce film se retrouve sur Disney Plus actuellement.
Voilà.
Donc, tout à l'heure, on a dit que Klaus était sur Netflix. Il est sur Disney Plus. Si vous avez envie de le regarder à volonté, il est disponible en VOD.
Moi, c'est un film d'animation que j'adore, que j'affectionne particulièrement, puisque je pense que on a tous vécu la même enfance. On avait 3 ou 4 cassettes qu'on passait en boucle. Nos parents n'en pouvaient plus. Maman, je suis désolée, c'était celui-là. Et en fait, je le regardais tout le temps. Je connais les musiques par cœur. Dans toutes les langues, j'ai tout fait. Et du coup, c'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Je trouve que ce film est d'une... En fait, il est très poétique, il est très beau, il est touchant. Et en plus, il est bien fait par rapport à l'animation. C'est juste incroyable. Kéliane, je sais que tu as une anecdote par rapport à l'animation.
Bah oui, donc ce n'est pas une animation simple puisque c'est du stop motion. On en avait déjà parlé avec Tim Burton pour Les Noces Funèbres. Tout à l'heure, j'ai évoqué Frankenweenie qui est aussi du stop motion ou de l'animation image par image. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, c'est faire bouger des petites marionnettes entre guillemets de pâte à modeler, plan par plan. Et donc, c'est un travail colossal. Pour la production du film, il y a eu 3 ans de tournage, et pas de production, mais de tournage. Et pour vous donner une petite idée, pour une minute de film, quand vous regardez, vous, le film, il y a eu à peu près, en moyenne, une semaine de tournage derrière, pour seulement filmer une minute de film, puisque donc, cette technique consiste à prendre photo après photo, et à faire bouger les personnages comme ça.
Sachant que c'est du stop motion très poussé, ouais. Parce qu'il y a des films d'animation en stop motion où on voit vraiment les gestes séquencés. Là, à l'image des Noces Funèbres ou d'un Wallace et Gromit, c'est quelque chose quand même qui est assez fluide et on voit presque pas l'animation passer.
Et je crois que c'est une des références dans les films de stop motion, je crois bien. Oui. Et je crois qu'il est sorti en
1993,
pardon. Et il a quasi 30 ans et en vrai, il vieillit super bien.
Franchement, c'est vrai.
Pas une ride.
Non, il a pas pris une ride, je trouve. Il y a des films d'animation, ils ont pris un peu un coup de vieux là. Je trouve qu'ils se regardent encore super bien et très agréable.
Mais c'est vrai.
Moi, j'aime beaucoup. C'est surtout les décors d'Halloween et les personnages qui sont présentés dans le monde d'Halloween. Un peu moins dans le monde de Noël. Je trouve qu'il y a une sacrée, une différence.
Après, le monde de Noël, on le voit 2 minutes. Hein, donc c'est pas non plus.
Bien sûr. Mais je trouve, en fait, ça c'est un peu trop simple. Et ouais. Moi après vraiment j'aime beaucoup les dessins de Tim Burton qui du coup
on retrouve vraiment sa patte hein, même si c'est pas lui qui l'a réalisé
forcément c'est pas lui qui l'a réalisé mais il est souvent noté comme un des films de Tim Burton et oui ça peut être à juste titre forcément mais oui il y a carrément la patte de Tim Burton dedans avec un peu les personnages un peu morbides, les grands cernes qu'ils ont, les squelettes, les sorcières, enfin voilà c'est du Tim Burton tout craché.
D'ailleurs c'est lui le directeur artistique en fait et qui a dirigé la graphie parce que la dernière fois pour l'épisode de Tim Burton que vous pouvez retrouver en podcast sur le site et sur l'application radio-rks.fr, je vous parlais de la chance que j'avais eue de pouvoir visiter l'exposition Tim Burton. Et dans cette exposition Tim Burton, il y avait quelques marionnettes de ce film-là. Donc c'est quand même lui, même si ce n'était pas lui qui a été à la réalisation du film, il a quand même été là pour créer les personnages, pour les dessiner et pour la conception des marionnettes.
Mais si je dis pas de bêtises, je crois qu'au début, il avait pour souhait de le réaliser,
oui.
Mais il est occupé sur le projet de Ed Wood, qui était un peu son film un peu plus sérieux avec Johnny Depp, donc en noir et blanc, qui retrace la vie de Ed Wood, tout simplement, pour ceux qui le connaissent. Et du coup, il a préféré se pencher sur ce sujet-là et laisser du coup à Henry Selick. Oui. La tâche, et je crois qu'il a fait d'autres films. Henry Selick, enfin, c'était pas n'importe qui, quoi. Il a pas confié ce projet là à un inconnu non plus.
Oui, je crois que c'était un ami déjà, premièrement. Oui.
Mais je crois qu'il a fait d'autres films d'animation par exemple.
En tout cas, il y est très attaché, Tim Burton. Et d'ailleurs, quand il a été question éventuellement de faire une suite, c'est lui qui est monté au créneau et qui a dit c'est hors de question. Le film est très bien comme il a pas besoin d'une suite. On va pas le faire visiter Thanksgiving, la Saint-Valentin et tout, ça suffit.
Ouais, clairement. Et d'ailleurs, on parlait du coup de ces portes là. Est-ce que vous savez quel a été le plan le plus difficile à tourner?
Oui.
Aucune idée. J'ai pas assez de souvenirs de l'étrange manuscrit.
Tu veux le faire ou je le fais?
Tu peux, mais c'est vrai que je vais te laisser le dire, mais que je me suis toujours dit que c'était un plan très particulier, ouais, qui ressort vachement dans le film.
Donc il faut avoir vu le film, il faut pouvoir visualiser le plan parce que c'est quelque chose de très visuel. Mais en fait, c'est quand il est donc sur la plaine avec autour de lui les portes pour les différentes fêtes. Il va pour ouvrir la porte de Noël, et en fait la poignée de porte, c'est une boule de Noël dorée. Et en fait le plan, c'est on voit Jack arriver au niveau de la boule de Noël, et il se reflète dans la boule de Noël, et sa main se reflète dans la boule de Noël. Et
du coup, un peu en fisheye en plus, un peu gros aussi.
J'ai plus le souvenir.
Et donc bon, à revoir parce que c'est quand même très visuel, mais en fait quand on le sait, on se dit que c'est effectivement une prouesse technique. De ne pas que aucun technicien, aucune caméra n'apparaisse à l'écran, et de pouvoir filmer sous cet angle-là, bah en fait, si vous voulez, faites l'expérience avec un miroir, c'est quasiment impossible.
Et on parle quand même de 1993, on n'a pas non plus des caméras d'une technologie incroyable, on n'a pas des petites GoPro, ouais, des tout petits trucs.
Et puis les décors sont pas si grands que ça non plus, même si
ça reste assez restreint des fois, je trouve.
Ouais.
À des moments, je trouve que ça fait vachement miniature justement. Je sais pas si c'est voulu, mais...
C'est petit, hein. On trouve facilement des images du making-of. Par exemple, Jack fait à peu près un peu moins de la hauteur d'une jambe adulte.
Bah, pour les noces funèbres, on avait vu que les personnages faisaient environ 30 cm de
ouais,
haut.
Je crois que c'est à peu près ça.
C'est pas énorme. Mais...
Donc, c'est quand même une belle scénographie, hein, quand on est à l'intérieur, mais c'est pas si grand.
Ça doit être assez grand justement pour que les techniciens puissent rentrer dans les décors et bouger eux-mêmes,
les marionnettes, et ne pas bouger les décors, parce que si un décor bouge, il faut recommencer tout depuis le début.
Et la semaine dernière, on parlait du coup des films de Tom Hanks avec du coup La Ligne Verte, avec des très bons doublages. Là, on peut notifier quand même aussi de très bons doubleurs, notamment Richard Darbois, ouais, qui a doublé Oogie Boogie, qui fait la voix récurrente de Harrison Ford, qui fait la voix récurrente du génie dans Aladdin.
De Buzz l'éclair.
Buzz l'éclair, le génie, enfin voilà, qui fait beaucoup Disney actuellement, qui a fait beaucoup Disney.
Et qui est aussi la voix de Energy, si vous ne savez pas. Mais Richard Darbois, qui est un des très grands doubleurs français. Et malheureusement, dans ces très grands noms du doublage, c'est un des derniers.
Ouais, et ça fera du mal quand il va partir.
Ouais.
Parce qu'il est super bon.
Il est excellent.
Est dans la magie de Noël, là. Allez.
Ouais,
on se met un coup de boost.
On ne parle pas de ça. Donc, un film, un très très beau film, très très bien réalisé.
Et un film très abouti, puisque ça va jusque dans la bande-son avec des musiques incroyables. On va d'ailleurs vous en passer une qui est la chanson de Sally, que j'affectionne particulièrement. Et on se retrouve juste après.
I sense there's something in the wind that feels like tragedy's at hand. And though I'd like to stand by him, can't shake this feeling that I have. The worst is just around the bend, and does he notice?
On a décidé de vous la passer en anglais parce que quand même, bon, c'est la version originale et c'est bien aussi des fois d'entendre les versions originales, même si bon, on aime bien chanter en français, mais c'est quand même bien d'avoir les vraies versions.
On vous a mis les deux, une oui, en français,
exactement.
Une en anglais.
C'est pour ça qu'on avait envie de varier un peu les plaisirs. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une anecdote visuelle, j'en ai une deuxième. Bon, effectivement,
régale-nous.
On est à la radio, c'est pas très visuel, je sais bien, mais imaginez-vous. Quand Jack,
ah
pardon.
Oui. Non, moi j'ai pas eu le plaisir d'y aller à Halloween.
J'ai pas eu le plaisir de pouvoir tourner dans le film. Mais quand Jack part au début du film dans le cimetière et fait sa chanson qui s'appelle, je crois, La complainte de Jack, quelque chose comme ça, Sally le suit discrètement et se cache derrière deux pierres tombales très expressives. Et en fait, ces deux pierres tombales sont inspirées. Celle de gauche est inspirée du cri de Munch, d'Edward Munch, le fameux tableau de Munch. Et celle de droite est inspirée du Guernica de Picasso. Et en fait, c'est la tête du cheval qui est représentée sur le Guernica du Picasso. Voilà. C'est deux petites historiques que j'ai trouvées et qui sont sympas, je trouve. Donc, pareil, revoyez le film et pensez à ces deux plans. Parce qu'effectivement, comme ça, c'est pas très expressif.
Puis c'est facile de les rater parce que je connais les deux tableaux et tu m'apprends quelque chose. Pourtant, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Moi, je reprends sur autre chose. On avait parlé dans l'épisode sur Tim Burton des sujets qu'il adorait traiter. Et il y a un de ces sujets qui était la question de la normalité, de ce qui est normal, de ce qui est étranger. Dans ce film, on en traite, évidemment, puisque Jack, il décide d'organiser Noël. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas spécialement dit pourquoi ça lui prend, quelle mouche le pique.
Bah parce qu'il visite Noël, donc
voilà,
il trouve ça fabuleux.
Il cherche un petit challenge.
Il trouve que ça change Halloween, en fait.
Oui, mais puis il en a marre de faire que Halloween. Enfin, on le voit, dès qu'Halloween est passé, le maire dit « Allez, on se prépare, il nous reste que 365 jours avant le prochain Halloween. » Et il a envie d'autre chose, il a envie de piment.
Donc Jack décide de remplacer le Père Noël, qu'ils appellent le perce-oreille dans le film, puisqu'ils ne comprennent pas bien, enfin Jack en tout cas ne comprend pas bien, en allant dans le monde de Noël. Et du coup, il se lance dans une course effrénée pour organiser Noël, puisqu'il reste très peu de temps. Et il y a cette question de la normalité qui revient, puisque les habitants d'Halloween ne connaissent que des choses horrifiques, donc ils préparent des cadeaux qui sont tout à fait terrifiants pour les enfants quand ils les ouvrent plus tard. On a des squelettes, des araignées, des serpents qui mangent les enfants. Et cette question-là, de la normalité, elle se pose, puisque pour eux c'est normal, pour les enfants qui vont recevoir les cadeaux, c'est tout à fait terrifiant. Et du coup, on retrouve ce qu'on avait pu voir par exemple dans Edward aux mains d'argent, où on a quelque chose de très singulier, un personnage qui a son identité propre, qui est transposé dans un monde qu'il dépasse et qui n'est pas du tout adapté à lui, ce qui est le cas de Jack. Et moi, je trouve ça assez intéressant de reprendre cette thématique-là. Et d'ailleurs, Jack, quand il arrive dans le monde... Alors, c'est pas le monde de Noël, finalement, c'est encore un autre monde, notre monde à nous. Il est plein de bonnes intentions, lui, il est persuadé de faire quelque chose d'incroyable et de mettre de la joie dans les chaumières, et en fait, il va créer un chaos pas possible.
Et d'ailleurs, on retrouve les producteurs, parce que Marvin nous l'a très bien dit tout à l'heure que c'était Disney qui avait produit, et je crois que c'est les deux premiers... Ah non, c'est pas le premier enfant que Jack visite, mais c'est les frères et la sœur qui visitent juste après. Ils ont respectivement un pyjama Donald et un pyjama Mickey. Voilà, encore un petit historique visuel à retrouver quand vous regardez le film.
Et il y a une scène aussi qui est très belle. Alors, j'ai pas eu l'occasion de chercher, mais je me suis toujours dit qu'elle devait être inspirée de quelque chose, autre la Pietà, qui est le moment où le traîneau de Jack est abattu par les forces militaires et où il tombe et il se retrouve dans les bras d'un ange, dans une statue d'ange, qui le porte, voilà. Et effectivement, ça rappelle la Pietà, donc la Vierge qui soutient son fils, qui soutient Jésus. Mais je pense qu'il y a d'autres iconographies qu'on peut retrouver dans la peinture, dans la sculpture, ce genre de choses.
Oui, bah clairement. Enfin, après, il y a le... Ouais, je pense qu'il y a une partie, beaucoup, du Christ mort. Parce que souvent, même s'il n'y a pas la Vierge, il est représenté comme ça. Je pense que ça vient de là, clairement.
Pour finir sur, parce qu'on parlait de Disney du coup, pour ceux qui ont la chance d'aller à Disneyland Paris, vous avez sûrement vu qu'il y a pas mal de saisons à Disneyland. Une des saisons préférées de la part des guests, pardon, c'est Halloween. Et il faut savoir que du coup, dans cette période-là, Jack est souvent un peu l'icône de Disneyland à cette période-là, aussi pour Noël, mais beaucoup à Disneyland, notamment dans les t-shirts, dans les mugs, des choses comme ça. Il n'y a pas une attraction pour lui, par contre. C'est un peu dommage.
Non.
Ça serait cool, en vrai.
Dans aucun des parcs, d'ailleurs.
Mais ça serait vraiment bien. Ouais. Genre avec vraiment une ambiance un peu Tim Burton et tout, ça serait vraiment cool.
Et d'ailleurs, le personnage de Jack est apparu en tant que personnage dans les parcs et surtout à Paris, que très rarement, premièrement, et que très tardivement. Et que depuis 4-5 ans, qu'on le voit venir régulièrement, notamment pour, tu l'as dit, la période d'Halloween, et pour la période de Noël, où il apparaît déguisé en Père Noël, comme dans le film. Mais sauf que ce personnage-là, bah, du coup, ça fait que 4-5 ans qu'il est là régulièrement et qu'il a un spot attitré à côté du manoir hanté.
Mais du coup, tu m'apprends quelque chose. J'allais dire, pour la blague, moi, si je travaillais à Disney, je l'aurais mis, j'aurais totalement mis de côté Halloween et je l'aurais fait apparaître à Noël en twistant un peu les chars de tous les autres personnages. Mais bon, ils y ont pensé avant moi.
Ouais, il apparaît, il a maintenant une photo location, comme ils disent, à côté du manoir hanté. Il apparaît pour les deux périodes. Il faut bien le rentabiliser.
Non, en fait, moi, c'était juste ce que je voulais dire. C'était ce que tu avais dit, du coup. Je voulais juste, en fait, savoir si c'était bien Jack à ce moment-là. Enfin, une personne, un employé de Disneyland qui jouait, du coup, Jack. Mm-hmm. Ou si tu parlais seulement qu'il était représenté souvent.
Tu as raison. Dans les produits dérivés, il est extrêmement représenté, donc toute l'année, mais principalement pour
les photos avec les enfants et tout.
Pour Halloween, exactement. Mais en tant que personnage physique, il apparaît dans les deux saisons.
Et il me semble qu'on n'a même pas cité le compositeur de L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est comme vous pouvez vous en douter, Danny Elfman.
Toujours le même. Quand on a Tim Burton, globalement, on a Danny Elfman pas loin.
Mais alors, où est Johnny Depp?
Il n'est pas là.
Pour une fois.
Effectivement.
Ça fait du bien aussi, des fois. Non, mais ça fait du bien.
Quand on regarde en version française, on n'a pas forcément...
Et il me semble que...
Il ne nous manque pas.
Que Helena Bonham Carter n'est pas là non plus.
Non.
Après, il faut dire que c'est un des premiers films... entre guillemets, de Burton, même si c'est pas un Burton. Donc c'est peut-être, ça vient peut-être de là aussi.
Puis c'était aussi un film d'animation. Donc si vous avez écouté la chronique sur Tim Burton, vous savez qu'il adore tuer Helena Bonham Carter. Là, c'était un peu compliqué.
Le premier film avec Helena Bonham Carter, c'est en 2001. C'est le remake de La Planète des Singes, pour info.
Voilà.
Est-ce qu'on passe à l'autre film?
Oui, on va passer... Là, c'était un de mes films préférés de Noël. On va passer au film préféré de Noël de Marvin, voilà. Sa Madeleine de Proust.
On met la petite musique et on en parle tout de suite. C'est le Pôle Express. Quelle magnifique musique. Alors, de quoi parle le Pôle Express? Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui n'a pas de nom. En fait, il n'est jamais cité dans ce film-là. Donc, c'est très intéressant, du coup, pour les enfants qui vont se représenter dans ce film, parce que, du coup, tout le monde s'identifie. Petit garçon.
Ouais.
Donc, ce petit garçon, il a un problème, c'est qu'il ne croit plus en la magie de Noël, contrairement à sa petite sœur qui est à fond dans Noël. Lui, il commence à douter de l'existence du Père Noël le soir du réveillon. Il va s'endormir avec pas mal de doutes et savoir si est-ce qu'il va avoir des cadeaux au pied de son sapin. Et en dormant, il va avoir la rencontre d'une locomotive à vapeur devant chez lui, qui est arrivée de on ne sait où, parce qu'il n'y a pas de rail de train à ce moment-là. Une personne va l'inviter à monter dans ce train en destination du pôle Nord, je ne vais pas y arriver, pour aller à la rencontre.
Il est trop excité,
pour aller à la rencontre
en direction des horreurs boréales.
Voilà, pour aller voir du coup
le Boréal Express.
Pour aller voir le Père Noël au pôle Nord, et il va faire la rencontre de pas mal de personnages assez atypiques dans ce train-là, et ils vont prendre tous ensemble un peu conscience de la magie de Noël et qu'il faut faire perdurer justement cette magie, qu'il faut y croire, c'est important d'y croire.
Et pour ceux qui ont écouté la semaine dernière, on retrouve le fabuleux Tom Hanks.
Voilà, surtout c'est réalisé par Robert Zemeckis, donc du coup c'est on raccroche un peu les wagons à ce moment-là, avec Tom Hanks qui
les
joue...
Les wagons du train.
C'est technique, c'est très technique.
Tom Hanks qui joue dans ce film-là 6 rôles. C'est énorme. Il y a que Eddie Murphy qui fait ce genre de performance. Là, c'est Tom Hanks qui va jouer du coup plusieurs personnages, notamment le père du héros, le jeune héros en motion capture, pas en voix, mais en motion capture. Le comment on appelle ça ?
Scrooge.
C'est pas lui que j'avais en tête, c'était le...
Le poinçonneur.
Le poinçonneur, ouais. Je sais plus son nom, mais celui qui s'occupe en fait de la sécurité à bord du train. Le Père Noël, Alors, on va appeler ça un fantôme. C'est un peu un invité surprise. C'est un fantôme. On ne sait pas trop ce qu'il est, mais voilà, il va avoir une personne au-dessus d'un train. Et c'est aussi, du coup, doubler et capturer les mouvements par Tom Hanks. Et Scrooge aussi.
Ouais. Et je trouve que le père du jeune garçon a vraiment le profil de Tom Hanks.
Aussi le poinçonneur.
Ouais, aussi.
Ils ont clairement la même tête.
Tu lui enlèves la moustache, c'est exactement lui.
Ouais. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était lui qui faisait la voix. Et j'ai regardé le film, j'ai dit « Oh, c'est Tom Hanks !»
Bah ouais.
J'étais outré.
Bah, je pense que...
C'est la voix de Woody, on la reconnaît
tout de suite. Non, même physiquement.
Oui.
Parce que la voix, moi, je suis loin d'être aussi calé que vous sur les doubleurs, tout ça. Je ne reconnais pas à la première écoute.
Après, moi, perso, la voix de Tom Hanks, je la reconnais parce que je l'ai entendue toute mon enfance dans Woody. C'est la voix de Woody et je l'ai entendue et c'est pour ça que je la reconnais si facilement.
Et donc moi, c'est mon film de Noël préféré. Je l'ai vu à la sortie au cinéma avec mon papa. Donc si je sais qu'il va regarder cette émission-là et qu'il va être très content que je parle de ce film parce que ma sœur et mon papa, ils aiment beaucoup ce film-là. Donc sorti en 2004. Donc je suis allé voir au cinéma en 2004 et c'est vraiment le film qu'avec ma famille, on le regarde tous les ans. Vraiment tous les ans, il passe et on adore. Il passe souvent aussi à la télévision. Il dure 1h40. Donc pour certaines personnes, ça paraissait long. Je vais pas citer les noms, ils sont deux dans la salle avec moi.
Non, j'ai pas dit ça, moi.
Moi, j'aime beaucoup, surtout...
Dans la salle.
J'aime beaucoup la première partie, c'est dans le train. La partie dans le train. Après, quand ils arrivent dans le pôle Nord, je suis un peu moins fan quand même.
Ils ont voulu mettre un peu d'action et je trouvais que ça servait pas grand chose.
Ouais. Bah,
franchement, j'ai trouvé que c'était hyper joli juste avant qu'ils arrivent.
Ouais, c'est joli. C'est bien fait.
Le lac enneigé, la petite tour qui monte là.
Oui, mais une fois qu'ils arrivent au pôle Nord.
Il y a un sacré travail d'animation. On leur laisse ça.
Moi, je reconnais que ce film-là, il a des défauts, certes, même des gros défauts, mais voilà, c'est mon film préféré. Oui. C'est pas forcément le meilleur film de Noël, je dis loin de là, franchement loin de là, mais c'est mon film préféré, j'en suis très fier. Il y a pas mal d'inspiration dans les bâtiments tout ce qui se trouve au pôle Nord, notamment par exemple, on peut retrouver un peu Big Ben, aussi un peu le nord de la France avec les briques. Ouais. Je trouve, ou en tout cas peut-être des pays un peu du nord, et aussi le Mont Saint-Michel. Quand ils arrivent à bord du train pour le pôle Nord, donc ils sont sur un pont et ça va être une espèce d'île un peu en forme, en fait la forme du Mont Saint-Michel tout simplement. Ouais. Et moi ça m'a fait tiquer quoi dernièrement.
Alors, Kélian, est-ce que tu préfères ce film à Klaus ?
C'est compliqué. On en parlera dans le top de Marvel. Moi j'avais quelque chose à dire. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est pas grave. Donc c'est un film qui est aussi disponible sur Netflix, donc pour les périodes des fêtes, allez-y aussi, c'est un très beau film. Et je sais pas pour vous, mais j'ai eu l'impression d'être à Disney parce que ça bouge dans tous les sens. J'avais l'impression d'être dans Space Mountain avec les plans très rapides et tout ça. Donc on sait que les parcs d'attractions sont fermés, on a hâte qu'ils rouvrent et de pouvoir y retourner. Mais pour se donner un peu de sensation, surtout visuelle, regardez le Pôle Express parce que ça bouge dans tous les sens. Il y a souvent des rails qui montent et qui descendent et qui vont à droite et à gauche.
Moi aussi, je parlais de Robert Zemeckis, du coup, qui a réalisé Forrest Gump. Il a réalisé aussi l'excellente trilogie Retour à le futur. Et du coup, il y a pas mal de références dedans, notamment, alors il y a une scène, il faut vraiment la voir en 0,25 en vitesse, mais on va voir le convecteur temporel de la DeLorean qui est à bord du train. Donc peut-être que c'est comme ça qu'il arrive justement devant la petite maison du jeune héros. Il y a plusieurs références aussi à la fin, le traîneau du Père Noël, quand il disparaît, il va avoir une poussière de neige, et ça fait un peu référence à on va dire, les traces de pneus les flammes sur la DeLorean. Et quand le héros, il va dire à la jeune héroïne aussi, parce qu'elle n'a pas de nom aussi, elle aussi, donc forcément, du coup, un sexe féminin, un sexe masculin, c'est cool, du coup, pour les enfants. Il va dire qu'il voulait, en fait, il a toujours voulu, j'ai voulu faire ça toute ma vie, en parlant du tirer le sifflet du train. Et ça fait référence du coup à Doc dans Retour à le futur 3, quand il va dire à Marty qu'il a toujours voulu, c'est quand il part en 1885 à bord de la DeLorean, il va tirer et il va dire j'ai toujours rêvé de faire ça. Ça fait référence du coup à ça, quoi. C'est super, super cool, quoi.
Et notons aussi que le film se déroule en 1955, qui est une des années que Marty et le Doc visitent dans
Retour
vers le futur.
Avec George McFly et Lorraine. C'est vraiment cool. Et il y a aussi, faut se dire que c'est le premier film en motion capture. C'est tout le premier.
Le tout premier ?
Oui, le tout premier. Entièrement en motion capture, c'est le tout premier. Et je trouve que pour l'année 2004, il passe super bien. Moi, il y a des scènes qui m'ont totalement scotché. C'est notamment les scènes... quand on est, on va dire, en point of view, donc on va être à l'avant du train avec les héros, et par exemple, on va prendre la plus grande, la pente la plus
pente, qui est raide,
la plus raide, à 99%.
Et bah franchement, là comme tu dis, on a l'impression d'être dans un parc d'attractions, quoi. On est scotché à notre canapé. C'est vraiment, enfin moi j'ai trouvé ça incroyable, quoi. Pour l'époque, quand tu le vois au cinéma, enfin moi j'étais très jeune quand je l'ai vu au cinéma, bah franchement j'étais sur le cul, quoi.
Il faudrait y mettre des petits ressorts sur le canapé pour faire bouger
la 4DX disponible à Chirol. Pareil, j'étais très surprise de l'animation, surtout que je l'avais vu mais il y a vraiment longtemps, donc je l'ai revu, je savais pas du tout en quelle année il était sorti, et alors là j'avoue que j'ai été bluffée. Et je sais pas s'il a été remasterisé.
Non.
Mais en tout cas, la qualité de l'animation, même la qualité de l'image, c'est assez incroyable. Même on dirait qu'il est sorti il y a 5 ans, grand max, le film.
Des fois.
De toute façon, c'est un film qui est quand même resté, hein, parce qu'il fait partie aussi des références des films de Noël, quand même. Hein.
Des fois, il y a juste des moments où les personnages, ils font pas très humains avec leur expression faciale. Mais ça passe quand même super bien, je trouve. Et il y avait une scène aussi que je viens de penser qui est super, c'est quand le jeune héros il perd le ticket de la jeune héroïne qui s'envole à la fenêtre. Il va faire plusieurs destinations. Il va atterrir dans la bouche d'un aigle, enfin d'une maman surtout qui va nourrir son petit. Et là en fait on va être comme si la caméra est accrochée au dos de l'aigle. Et il va après prendre une descente. Bah, les aigles en fait ils sont super rapides. Ils sont connus pour avoir une pointe de vitesse quand ils sont on va dire
à pic,
ils sont super rapides. Et là justement on a l'impression de traverser les, enfin il va y avoir des espèces de petites collines, une rivière, et c'est, enfin une rivière plutôt, une cascade plutôt, carrément une cascade, et c'est super bien fait ça aussi pour l'époque.
Et ben je pense qu'on va contacter le cinéma des Chirols. C'est un film que j'ai envie de voir en 4DX.
Mais comme tu disais, on pourrait totalement imaginer une attraction en fait, ou même à l'image d'un Ratatouille à Disney, quelque chose où on est accroché à notre siège et où on bouge en même temps que les personnages.
Et important aussi, c'est qu'on n'a pas noté, c'est que c'est un film qui est inspiré d'un livre. De base, le Pôle Express est un livre. Et livre, je sais qu'il contient, je crois, une quarantaine de pages, ce qui est vraiment un livre de poche, quoi. C'est un tout petit livre, et du coup, ils ont dû un peu... C'est pour ça que des fois, il y a des petits moments où ça traîne un peu en longueur, parce que bah, forcément, le film, il n'aurait pas pu durer. Enfin, sinon, ça aurait fait un court-métrage. Donc, pour faire un long-métrage, il faut facilement une heure. Et je pense qu'il y a des petits moments où on aurait peut-être évité, mais c'est du remplissage, mais je trouve que ça marche quand même bien.
Et puis, tu parlais tout à l'heure des personnages joués par Tom Hanks. Il y a Scrooge aussi, qui, à la base aussi, est un conte de Noël.
Ouais.
Même s'il y a eu une adaptation Disney en motion capture aussi, je crois, avec
Jim
Carrey.
On retrouve, voilà, 2 ans plus tard avec Jim Carrey, qui est réalisé aussi par Robert Zemeckis.
Et qui est très bien.
Et qui est un Disney, par contre. Parce que Pôle Express, c'est pas un Disney, mais Scrooge, c'est un Disney.
Et pour ceux qui connaissent le conte original...
On aurait pu le placer, d'ailleurs, celui-là.
Mais pour ceux qui connaissent le conte original, il est très fidèle au conte original et vraiment, vraiment bien fait. Il fait un peu peur, mais il est vraiment bien fait.
Tout à l'heure, tu as parlé, Marvin, du ticket de train de la petite fille qui s'envole. Ça m'a immédiatement fait penser à ce dont on parlait la semaine dernière, à la plume au début et à la fin de Forrest Gump. Et je lis à l'instant qu'effectivement, c'est un clin d'œil.
D'accord.
Bah, puisque c'est le même réalisateur, je pense que c'est voulu, de toute façon.
Moi, il m'a plus pensé au ticket d'or de Charlie la chocolaterie, mais pourquoi pas.
Et en parlant des tickets, j'aime bien aussi le fait qu'au début du film, on va avoir des inscriptions, enfin des lettres précises pour chaque personnage. Par exemple, D, E...
Qui veulent rien dire.
Non,
bah,
rigolo, quoi.
Bah, ça veut rien dire vu qu'il y a que deux lettres.
Non mais à la... oui mais à la fin, oui, à la fin du film voilà. Le... oui au début voilà ça veut rien dire. Excuse-moi, ouais, j'avais pas compris ce que tu voulais dire. Ouais. Au début du film ça veut pas dire grand chose. Ils se demandent même les personnages ce que ça veut dire. Et à la fin en fait on comprend que bah, en fait c'est suivant en fait comment ils ont réagi dans le train avec les péripéties qui leur est arrivé. Bah, chacun en fait a une inscription et par exemple le personnage principal c'est croire. Ça veut dire croire. Mm-hmm. Donc c'est par rapport en fait au Père Noël qu'il faut toujours croire au Père Noël. Et d'ailleurs, c'est très beau parce qu'à la fin, c'est la voix de Tom Hanks qui, du coup, joue plus le père à ce moment-là, mais joue le héros, ouais, qui est devenu adulte et qui dit quelque chose comme... alors là, j'ai plus la phrase exactement, mais je sais que c'est quelque chose comme... des fois, les choses les plus importantes dans la vie, on ne les voit pas, mais il suffit d'y croire. Mm-hmm. Quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est très beau pour finir, par exemple, un conte de Noël. Ça finit bien, on va dire, la séance de ciné.
C'est vraiment la phrase qu'il faut dire à la fin d'un conte de Noël. Et c'est un conte aussi, mais c'est pas quelque chose enfin, c'est un conte qui est aussi profond, parce qu'il y a aussi les questions de discrimination et de l'autre, avec le petit Billy qui vit dans un quartier défavorisé et qui n'a pas l'habitude et la chance de pouvoir fêter Noël. Et grâce au Pôle Express, qui va pouvoir vivre la magie de Noël comme chaque année. Et on le voit très heureux et très épanoui à la fin du film.
C'est le seul personnage qui a un nom aussi.
Effectivement.
Enfin, en tout cas, en tant que jeune héros. Parce qu'il y a aussi Monsieur Je Sais Tout. Enfin, il n'a pas vraiment de nom, mais voilà, il est nommé comme Monsieur Je Sais Tout. Et j'aime bien aussi, c'est le duo de personnages qui s'occupent... Bah, en fait, les conducteurs de train.
Ouais.
C'est un peu comme toujours dans les films. Enfin, il y a toujours un grand maigre et un petit gros. Et c'est un peu le ressort comique. Bah, c'est un peu pareil dans ce film-là. Ils sont super marrants.
Bah, ils font penser un peu à Laurel et Hardy, quoi.
Et il y a eu un petit guest dans ce film-là, c'est à la fin, du coup, quand il y a le bal, on va dire, pour fêter Noël, il y a Aerosmith, en lutin. Je ne sais pas si vous avez remarqué.
D'accord. Alors, chanteur d'Aerosmith.
Oui, le chanteur d'Aerosmith, ouais. Pardon.
Okay.
Je ne sais plus comment il s'appelle son nom, mais voilà, le chanteur principal.
Effectivement, je me suis posé la question de savoir s'ils n'étaient pas reconnus, mais je n'avais pas retrouvé.
C'est Aerosmith. Donc, intéressant, c'est cool. C'est assez cool.
Donc, ouais, c'est bien, on est bien. Donc je répète, hein, c'est trois films qui sont disponibles sous abonnement légal. Donc
moyennant monnaie.
Voilà.
Bah, disons que L'étranger de Monsieur Jack, ça va rester sur Disney parce que c'est une production Disney. Ouais. Close, pardon, ça va rester sur Netflix parce que c'est une production Netflix. Par contre, Pôle Express, ça risque de partir. Donc si vous devez en voir un en priorité, ça serait peut-être le Pôle Express parce qu'il serait à même de partir plus rapidement que les autres.
Et puis après, je crois que Scrooge est aussi sur Disney.
Vu qu'on en a parlé comme c'est un Disney, ou s'il y est pas, il va arriver. Quoi. Ouais.
Bon, je prends les rênes du top de Marvin et je te demande à toi, Marvin, en premier, quel est ton top ?
Alors, déjà les trois, je les aime bien, c'est important. Mais je préfère le Pôle Express, ensuite Klaus et ensuite L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors oui, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est considéré comme un des meilleurs films. Je ne dis pas le contraire, c'est juste que je suis moins attaché à celui-là et c'est mon avis personnel.
La compétition est rude ce soir.
Voilà,
Kéliane ?
Jack, le Pôle Express et Klaus.
Eh ben, on va pas être d'accord puisque moi ce sera Jack, Klaus et le Pôle Express en dernier.
Je crois que c'est la première fois qu'on a trois
tops différents.
Mais c'est cool. En vrai, c'est cool. Super. C'est super.
La semaine prochaine, de quoi on va parler ? On va parler.
Alors la semaine prochaine, on va vous préparer à une gueule de bois inévitable. Enfin, faites attention quand même parce que
si on a le droit.
On a un couvre-feu.
Ouais, on n'a pas vraiment le droit.
Donc faites attention, mais après, si vous êtes en petit comité et que vous dormez les uns chez les autres, c'est faisable. On vous prépare à une sacrée gueule de bois. J'ai spoilé techniquement puisque les films s'appellent The Hangover en anglais. Et qu'est-ce que c'est, Kéliane ?
C'est Very Bad Trip, la trilogie
des. C'est la dernière émission de
2020.
2020.
Ce sera la trilogie de Very Bad Trip. On va finir 2020.
Ça sera léger comme sujet.
C'est sans prétention. Voilà. On va se mettre entre guillemets au niveau des films sans vouloir critiquer parce que c'est des films qu'on aime bien regarder. Mais voilà, c'est pas très intellectuel. On finit l'année tranquillement.
Et je pense qu'on va finir l'année comme il commence dans le film, quoi, en oubliant tout ce qui s'est passé. Je pense
qu'on peut essayer.
Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire. Et on va oublier cette année 2020 définitivement l'année prochaine avec le dernier épisode sur Very Bad Trip. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission et de tous les autres épisodes sur le site internet radio-rks.fr ou sur l'application radio-rks.fr. Vous pouvez aussi retrouver la playlist de l'émission avec des petits bonus pour préparer votre réveillon de Noël tranquillement en famille sur la chaîne YouTube de RKS. Et vous pouvez, comme chaque semaine, retrouver le compte Instagram ciné7-rks pour retrouver tous les best-of des émissions précédentes, l'actualité et ça vous tenir au courant. et même discuter avec nous, parce qu'on sera très heureux de discuter avec vous. On va se quitter sur une dernière petite musique. C'est une musique que Marvin adore. C'est la musique qu'il met le matin du 25 quand il reçoit les cadeaux.
24, au soir.
Bon, on ne fera pas le débat, ce n'est pas le moment. Mais
voilà. C'est sa musique et qui s'appelle comment, Marvin ?
Believe.
Exactement. À la semaine prochaine.
Joyeux Noël à tous.
Joyeux Noël à tous. Profitez bien de votre famille.
Children sleeping, snow is softly falling. Dreams are calling like bells in the distance. We seems the magic slipped away. We find it all again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside and give your dreams the wings. Seems that we have lost our way. We find ourselves again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying. Hear the melody that's playing. There's no time to waste. There's so much to celebrate. Believe in what you feel inside. And give your dreams the wings.